Ce jour est dédié pour la Refuah Shlema et la réussite de l'opération de Myriam Bat Abraham Avinu. L'histoire que raconte un monsieur, il raconte l'histoire, c'est passé environ il y a 15 ans, c'est l'histoire de son voisin. Son voisin, un avraire, un étudiant en Torah, de condition modeste, qui a 4 enfants et qui, à Dieu ne plaise, a reçu une maladie terrible dans le foie. Il a eu des traitements et là, ces traitements ne réussissent pas. Et là, il y a un niveau où le foie ne fonctionne presque plus. On l'amène à l'hôpital Hadassah ici, dans un département qui s'appelle Tour Kaspa. Pourquoi ce nom-là? Parce que c'est le nom du professeur qui est responsable de ce département, le professeur Ran Tour Kaspa. Et on le branche à un appareil spécial qui monte en live, d'accord, en vrai, exactement comment fonctionne le foie chaque seconde. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, etc., etc. Et on attend quelques jours pour essayer de faire encore les derniers traitements pour essayer de sauver le foie. Et à la fin, le professeur dit, il n'y a pas le choix, il faut l'amener maintenant en Angleterre, rapidement pour faire une greffe du foie. Rapidement, le professeur se met en contact avec son homologue en Angleterre, il met sur le point, il prend des billets d'avion, et dans quelques heures, l'avion va partir. Qui part avec le voisin? On porterait sa femme, et sa femme vient d'accoucher, ils ont 4 enfants, elle peut pas. Donc le mieux, ce sera le père. Le père, un monsieur qui a une 60aine d'années, et il accepte de partir avec son fils. Et bien donc à l'hôpital, et dans quelques heures, l'avion va partir. Il dit, écoutez, le professeur dit, écoutez, je pars au cottage, je vais prier, je reviens. On dit, revenez vite, parce qu'on doit encore ranger les dernières choses avant le vol. Il va au cottage, et il reste 2 personnes avec le malade, celui qui raconte l'histoire, le voisin, et le frère du malade. Et bien sûr, toute âme Israël, tout le peuple d'Israël, ils ont fait une grande chaîne de Tehillim, tout le monde prie, ils ont déchiré le ciel. Mais rien, ça va en descendant, et on voit que ça va de mal en pis. Celui qui raconte l'histoire, il dit, le pauvre malade était tout jaune, on voyait l'ange de la mort déjà sur lui, il mettait un peu d'eau sur les lèvres pour humidifier, il peut à peine parler, très très faible. Et dit Tehillim, et il voit que le frère, il dit Tehillim, à chaque film qui finit, il regarde l'appareil. Après, il fait Tehillim, il regarde l'appareil. Au moment, il lui dit, t'as remarqué? On ne comprend rien du tout à ces chiffres-là. Je crois qu'il y a une petite avancée. Donc, quand il est, bah ouais, une petite avancée. Il appelle l'infirmière. Écoutez, je crois qu'il y a rien du tout. Rien du tout. Ça n'a aucune signification médicale. Bon, il reprend Tehillim. Et le type raconte, je le vois, il fait Tehillim, regarde l'appareil. Prend encore un Tehillim, regarde l'appareil. Prend un quart d'heure, il dit, mais ça change. Il rappelle de nouveau l'infirmière, il dit, écoutez mon cher ami, vous n'êtes pas médecin, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous concerne pas, ça ne change rien. Voilà. Bon, il se rassied, et de nouveau, un Tehillim, c'est l'appareil. À la fin, il n'en peut plus, il dit, je vois le professeur. Il se met à courir, le type qui raconte, moi aussi je me mets à courir derrière lui pour le retenir, et bien, chez le professeur, il va se faire descendre. Il tape à la porte du professeur, excusez-moi, mais je crois qu'il y a les chiffres en train de changer, ça, je pense qu'il y a, il, le professeur dit quoi, en mal? Non, en bien. Impossible. Allez, rentrez, allez prier, on ne peut rien faire. Donc, il va de nouveau, il va prier. Il va y prêter, il regarde l'appareil. Et c'est pas possible. J'y vais pas. Il attend encore un quart d'heure, là c'est trop. Il retape à la porte, excusez-moi, venez. Bon, le professeur dit, bon, allez. Il me casse les pieds celui-là. Il vient, regardez, incroyable. C'est impossible. Impossible. Il appelle l'infirmière. Réglez de nouveau l'appareil, mettez-le à zéro, qu'on voie. Il dit, du point de vue médical, c'est impossible. De ma vie, j'ai jamais vu une chose pareille. Et dans le monde, j'ai jamais vu une chose pareille dans le monde entier. Le foie est en train de reprendre vie. Inutile, appeler l'Angleterre, on n'envoie pas le gosse, c'est bon. Le père de 4 enfants, d'accord? Avec ça, on peut travailler, on peut essayer de le guérir. Arrive le père, et il dit, il a l'air tout souriant comme ça. Le médecin le regarde, vous êtes au courant du changement? Il dit non, mais je sais qu'il y a un changement, pour le bien. Comment vous savez? Racontez-moi, qu'est-ce que vous avez fait là-bas au côté? Parce que ce qu'on vient de voir maintenant ici, c'est tout à fait un point de vue médical, c'est complètement miraculeux, impossible. Vous avez le temps? Il dit au médecin, oui, bon, je vous raconte. Je suis né, il commence à raconter sa vie. Je suis né en 1940 à Mexico. Mexico, c'est une ville très matérialiste. Mais, point de vue du judaïsme, c'était très, 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 râle et pâquerette. Ils étaient ou non religieux ou super traditionnalistes. Des gens orthodoxes, encore moins des étudiants en Torah, rien du tout. Et vers l'âge de 15 ans, j'ai senti un moi comme ça un appel de spiritualité. Je voulais étudier la Torah. J'ai dit, mes parents, je veux partir un an à Yeshiva en Israël. Ils n'ont pas voulu, j'ai fait pression, ils ont accepté. Je suis arrivé en Israël et j'ai commencé à connaître la vraie vie, le vrai goût de la vérité. Mes parents voulaient que je revienne, que je commence à travailler dans l'affaire de la famille qui allait, qui avait beaucoup de succès. À chaque fois que je refusais, je revenais, je repartais, mais il me faisait une pression énorme. Viens, on te donne une belle voiture, viens, t'auras une belle villa, t'auras un poste intéressant dans l'affaire. Et moi, à chaque fois, je repartais en Israël. Je suis arrivé à mes 18 ans. Ils m'ont dit, bon, viens maintenant, on a besoin de toi, viens pour les vacances. On a besoin de toi pour les vacances. J'ai compris que si je partais, j'aurais tellement de pression que je pourrais plus revenir. Je suis au hôtel, j'ai prié Hachem, je lui ai dit, Hachem, je prends sur moi, je quitte pas Israël. Je vais étudier la Torah, et je lui ai dit que ta Torah. Et ainsi il a fait. Il est même pas parti pour les vacances. Il est resté là-bas, 4 ans et demi en Israël, et à l'âge de 22 ans et demi, il s'est fiancé. Ses parents sont venus pour le mariage, les frères, toute la famille est venue. Et son père était très très ému au mariage de voir comment son fils il a changé. Il est orthodoxe, en bonne relation avec les rabbanim, il voit les rabbanim, des gens de qualité, il voit des amis de qualité. Extrêmement touché. Et comme ça, les familles, la famille et les frères ont fait tous les Shabbat Brachot, tous les 7 jours de festin. Et au dernier festin, tout le père dit, je veux parler. Il prend la parole. Il commence à dire, je remercie tous les organisateurs, ceux qui m'ont invité ici, et voilà, je vous parle de mon fils, et là, il se met à pleurer. Il n'a même pas pu dire un mot, il se met à pleurer. Il se met à pleurer, tout le monde se met à pleurer. Les mouchoirs. Et il commence à raconter l'histoire, ici dans la voix de Rabbi Nathan, l'un des plus grands rabbins de l'histoire, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer est appelé Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer. Le premier rabbin dont le nom est mentionné dans la Gemara et dans la Mishnah. Le premier rabbin qu'on cite nominément dans la voie orale. On dit que c'est un Gilgul de Moshe Rabbeinu. Il est né d'une famille très riche, Monsieur Horkenos, qui a propriétaire foncier, beaucoup de champs, beaucoup de troupeaux. Et c'était je crois son fils aîné même, et bon, il a fait travailler dans l'affaire familiale. Et Elias se met à pleurer. Il dit, j'aime pas ce que je fais. Son père dit, ok, je te mets un travail plus facile, plus sympa, un autre travail. Et là, de nouveau, il se met à pleurer. Il dit, j'étudie la Torah. Son père dit, mon cher ami, restons calmes. Tu vas pas aller être un nul qui perd son temps devant les bouquins. C'est important, on aime bien la Torah, mais il y a des affaires, c'est important. Elias s'enfuit, discrètement. Va à Yerushalayim. Tu dis, Rabbi Yochanan ben Zakkai, le grand de la génération. Et il a rien. Il se met à jeûner. Il se met à maigrir. À un point tel qu'il y a une mauvaise odeur qui sortait de sa bouche. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai allait vérifier qu'est-ce qui se passe avec lui. Alors on lui dit, oui, c'est le fils de Horkenos, le grand milliardaire. Elle est venue ici. Bon, alors Rabbi Yochanan ben Zakkai l'a pris sous sa tutelle. Et là, comment ça va-t-il enseigner la Torah? Il l'a aidé, etc. Pour que nous, ce père, voyons que son fils est parti, il apprend qu'il est en Yeshiva à Jérusalem, il se dit, bon, ben, c'est très simple, je le déshérite. Et tous les frères ont dit, on le déshérite, il ne fait plus partie, et pourquoi il ne prend pas avec nous, partie du truc familial, et ben, il aura droit à rien. Et pour que nous décide d'aller à Jérusalem pour faire valider le déshéritage par le Bedin, le tribunal rabbinique, et il se dit, je vais rentrer là, il y a une grande conférence de Rabbi Yochanan ben Zakkai, le grand de la génération. Effectivement, Rabbi Yochanan ben Zakkai est assis, comme ça, tous les centaines de gens viennent l'écouter. Et tout à coup, il voit Horkenos rentrer. Il fait appeler Rabbi Eliezer, je viens de le rappeler, il lui dit, viens, tout de suite, la dracha à ma place. Mais je peux pas, hein. J'ai pas le droit de parler devant le Rav. C'est bon, je sors. Rabbi Yochanan Zakkai sort, se met à la place de Rabbi Eliezer et se met à faire la dracha. Rabbi Yochanan ben Zakkai, en cachette, rentre par derrière et écoute tout ce que dit son élève Rabbi Eliezer. Et quand il a fini la dracha, il l'embrasse sur le front et lui dit « Béni soit Abraham et Yaakov qui ont un enfant pareil dans leur peuple, Rabbi Eliezer. » Se lève une voix dans la salle qui dit « Non, bénis-moi, moi, Horkenos, c'est un fils à moi. Bénis-moi que j'ai un fils pareil. Je voulais pas te déshériter, mon cher fils, ni tes frères, ni moi. Mais c'est vrai que c'est quand même mal que tu n'étais pas avec nous dans les affaires. Tu étudies la Torah. On comprenait pas. C'est pourquoi tu te coupes de nous. Comme ça, on comprenait pas. Et maintenant, j'ai compris. » Elle fait de bons choix. On voit à quel degré de spiritualité tu as acquis. T'es un tzaddik, je crois que grâce à toi, toutes nos affaires vont bien, c'est grâce à toi. Tu es la mezouza de la famille. Et je m'engage, je vais t'aider. On va aller dans ton sens. Vraiment, pour nous, c'est une très très grande leçon qu'on a reçue ici. Et j'applaudis vraiment tout le choix que tu as fait. Évidemment, tout le monde se met à pleurer de nouveau. Là, de joie. Et il s'avère que les frères de ce jeune homme, après, ont quitté le Mexico, sont venus en Israël, ont commencé à dire la Torah aussi. Ils ont monté un des Talmud des Torah les plus fameux qu'il y a en Israël, et peut-être la yeshiva sfaradite la plus fameuse qu'il y a en Israël. Le Torah, c'est Shtilei Zetim, la yeshiva, c'est la yeshiva de Yesodot, c'est les plus cotés dans le monde sfarad. Grâce à un jeune homme de 15 ans qui est venu étudier la Torah, à 18 ans, il dit, je rentrerai pas parce que j'ai trop peur de tomber dans le panneau, je reste pour étudier la Torah. Et comment des milliers d'élèves sont sortis de ces yeshivotes-là, grâce à la décision d'un seul garçon. Alors, le père dit au professeur, voilà, vous comprenez maintenant qui je suis. Alors, je suis allé maintenant au Kotel. J'ai dit à Dieu, Dieu, quand j'ai 18 ans, j'ai pris sur moi de ne plus quitter Israël. Maintenant, on me demande de quitter Israël pour pas que mon fils meure. Alors, je sais pas, est-ce que j'ai fait tout cela pour quitter maintenant Israël? J'ai tenu ma promesse. Je demande à toi maintenant aussi de médiateur ma promesse. Je te donne ma promesse dans les mains et la vie de mon fils dans tes mains. Et je sais que tu feras quelque chose pour le bien. Je suis reparti, j'ai senti que c'était passé. Je suis rentré à l'hôpital, j'ai un sourire, je savais que quelque chose allait se passer. Et Baruch HaShem, maintenant, en voyant vos têtes, je vois que Baruch HaShem, Dieu a exaucé mes prières. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Vamen.